RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter.
Scouse. Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After Rien. Jusqu'à minuit, nous sommes en direct, bien sûr, en direct à la radio sur RMC, en direct à la télé sur RMC Sport News, dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Laure Le Payeur est avec nous. Salut Laure.
Bonsoir.
Kevin Diaz est là. Salut Kevin.
Salut, bonsoir à tous.
Et Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Salut les amis.
Bon, bah, l'équipe de France féminine au programme, bien sûr. On va également parler des évolutions liées à la situation de Neymar dans quelques instants, parce que ça bouge. Alors, comment faut-il interpréter tout ça? Ce sera dans quelques minutes, bien sûr. Je rappelle que la France bat le Nigeria 1-0. Dans le même temps, la Norvège gagne face à la Corée du Sud 2-1. Donc, la France, première de sa poule, est qualifiée. Jouera dimanche soir. Vous l'avez entendu il y a quelques instants dans les réactions. Alors, on ne sait pas encore contre qui, hein, mais il y a de bonnes chances que ce soit le Brésil, soit l'Italie.
L'Australie, parce que pour l'instant, c'est l'Australie et le Brésil qui ont...
L'Australie et le Brésil, non, mais c'est, les trois, c'est possible.
L'Italie, ils ont gagné deux matchs. Ils ont
oui, mais il y a un Brésil-Italie.
Si demain, elles perdent.
Ouais.
Ah oui.
Là, moi, je penche plus sur Brésil-Australie en troisième de ce groupe-là, moi, mais bon.
On verra demain. Bon, en tout cas, il y a une route quand même compliquée, parce que... donc, un des trois, puis éventuellement États-Unis en quart... Là, tu joues pas.
Tu joues pas
le Nigeria et je sais pas qui chez les garçons il y a quelques temps.
Bah surtout que ce soir, effectivement, il y a la victoire.
Ou l'Irlande du Nord et l'Irlande.
On retiendra un petit peu. Voilà, on retiendra un petit peu les trois victoires de l'équipe de France. Mais maintenant, je trouve quand même une équipe de France inquiétante dans le jeu. On a vu une première mi-temps compliquée où quand il y a des joueuses qui sont bousculées dans l'impact athlétique, elles ont du mal à répondre, du mal à développer leurs offensives. Maintenant, une belle réaction deuxième période, mais ça reste trop peu inefficace quand on regarde un petit peu les statistiques.
Trop peu efficace, tu veux dire.
Hein ?
Trop peu efficace, tu veux dire.
Trop peu efficace, ouais. Et on regarde les statistiques, 22 tirs du côté des Françaises et seulement 4 cadrés. C'est vraiment
mais ce qu'on ne sait pas en fait de cette
équipe. C'est une stat ligue, hein, ça.
Ce qu'on sait pas de cette équipe, c'est comment elle est quand elle est dans un match, on va dire, équilibré et qu'elle subit des occasions. Parce qu'en fait, depuis le début de la compète, elle ne subit pas d'occasions.
Non.
Donc, comme elles ne subissent pas d'occasions, en fait, on ne sait pas comment elles sont dans un match à mouvement de balancier. C'est-à-dire, je domine, je concède.
Ouais, c'est
je
vrai. Domine.
Là, en fait, elles sont tout le temps. En phase de domination dans leur match, elles ont eu le premier match évidemment était super facile, le deuxième plus compliqué, mais elles ont pas subi énormément. Et là ce soir, les Nigérianes, on les a pas vues quoi. En phase offensive, bon, on me disait elles vont vite devant machin, mais elles vont vite devant, elles avaient jamais un ballon les trois.
Elles ont tiré deux fois les Nigérianes.
Voilà.
En première mi-temps, elles ont
eu quelques situations de transition qui ont été plutôt bien gérées d'ailleurs. Mais par contre attention parce qu'on le disait pendant le match, notamment Sarah Boadi, la gardienne, sur les coups de pied arrêtés. Sur quelques sorties, elle n'a pas dégagé énormément de sérénité, donc elle aussi, il faudrait l'avoir sous pression avec cette défense, même si on connaît bien sûr le niveau exceptionnel de Wendy Renard dans cette défense centrale. Attention quand même, parce que Daniel a raison, il faudra les voir en huitième, puis en quart, dans des phases où elles vont subir, où elles vont être dominées.
Est-ce qu'elles sont à l'aise en contre-attaque? Parce qu'on dit beaucoup que Diacre, c'est un peu modèle Deschamps dans l'approche tactique des rencontres. Si c'est vrai, si ce modèle-là, c'est celui des filles, il faudra le voir face à des adversaires qui, justement, vont un peu te pousser et des configs de match où tu répondras par des phases de contre-attaque.
Tu parles modèle.
Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse là-dessus.
Tu parles du modèle Deschamps. On en a un peu parlé en souriant pendant le match, mais clairement, cette équipe de France, elle a quand même eu du mal à dominer, à jouer contre un bloc bas qui était bien placé. Quand même, les Nigériennes sur la première heure de jeu ont très bien défendu et les Françaises ont eu du mal. Et ça a été très stéréotypé. On joue sur les côtés, on tente un centre, on joue quasiment tout sur les coups de pied arrêtés. On a vu sept combinaisons sur coups de pied arrêtés.
Tu mets sur le côté, tu essaies de centrer. Ça donne.
Ouais, mais la fixation au centre, pour moi, ce soir, on l'a pas vu. Moi
j'attends assez.
Beaucoup plus de Valérie Gauvin.
Elle a un
profil plutôt athlétique, de point d'appui. C'était trop insuffisant dans cette première mi-temps. Et j'ai revu un petit peu. Ouais, mais j'ai revu un petit peu la première mi-temps qu'elle a fait face à la Norvège, une belle réaction en deuxième période. Et d'ailleurs, elle avait subi quelques critiques de la part de Korenia qui lui demandait de faire beaucoup plus.
Ouais, mais ce serait quoi les solutions? Quelles solutions tactiques tu vois dans cette équipe? Parce que toi, tu les connais mieux que nous. Nous, on nous dit effectivement qu'elle veut jouer avec ce point de fixation. Mais qu'est-ce qu'elle aurait comme autre solution?
Bah, moi, le sommaire en pointe.
Moi, j'aurais aimé justement dans cette deuxième période de voir Eugénie Le Sommaire en pointe de cette attaque. Je pensais qu'elle allait l'essayer quand elle a fait rentrer Diani, qu'elle serait asseyée sur le côté gauche, Diani à droite, qui est plutôt son poste préférentiel, et de voir Eugénie Le Sommaire en pointe de cette attaque pour.
Parce qu'elle mettrait Cascarino, Asseyi et Le Sommaire comme trio offensif.
Bah, je...
Le Sommaire, c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure des Bleus.
C'est la meilleure attaquante.
Pour moi, c'est la meilleure attaquante.
C'est la meilleure attaquante.
Il y a un problème d'animation.
C'est la meilleure.
Dans ce match, et ça a été également dans le précédent, il y a un problème d'animation offensive dans la transition entre, et dans la relation entre les milieux de terrain et l'avant-centre. Parce que sur les côtés, ça passe. On a vu notamment Viviane Asseyi qui a fait un match énorme.
Elle est très bien, Vivi.
Franchement.
Bien sûr que c'est la meilleure Vivi,
elle n'avait pas joué. Elle est remplacée. À la base, elle est remplacée.
Tu l'appelles Vivi, toi.
Franchement, hein.
Ouais, parce que tout le monde la surnomme Vivi.
C'est son surnom.
Et force, Daniel, il connaît même le surnom.
Franchement, elle postule à une place.
Elle joue à gauche, elle joue à droite. Mais on n'a pas de relation entre Tina et Gauvin. C'est ce fameux appui-remise. On cherche, voilà, vraiment à être intercalé entre les lignes.
Non, tu ne trouves pas?
Ouais, je trouve que c'était un petit peu mieux en deuxième période, mais parce que aussi l'intensité et le pressing des Nigérianes a diminué. Mais je trouve qu'elle s'essouffle beaucoup à courir à la récupération du ballon et on la trouve vraiment trop peu souvent entre les lignes.
Le surnom de Gaëtan, c'est quoi?
Tan.
Tan.
Patatane.
Si tu veux tous les surnoms, je les donne. Je suis pas mal sur les surnoms. Si
et Laure, c'était quoi son surnom?
Mais ça, je sais pas. Moi, je sais celle qui joue en ce moment. Moi.
La paille.
Qui joue.
C'était ça. C'était ça paille.
Ouais. Pas mal.
C'est pas trop dur à trouver, en fait. Alors, j'aimerais qu'on accueille Valentin au 32-16 qui est là, supporter de l'équipe de France. Salut Valentin.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Salut. Bonsoir, bah, du coup, t'es un peu inquiet après ce match là?
Bah forcément qu'on est un peu inquiet parce que ce match-là n'était pas vraiment de l'acabit d'un match de Coupe du Monde. Bon, après c'était le troisième match d'une phase de poule, donc on savait très bien que ça allait pas être du grand spectacle, hein, quand on se souvient du France-Danemark de l'année dernière. Bon, après, comme ce qui a été dit, hein, c'est que ça va être une nouvelle compétition qui va commencer. On va enfin rencontrer des équipes avec un standing un petit peu plus supérieur.
Valentin.
En tout cas, filles ou garçons, on a toujours les mêmes clichés.
À ce stade, je te coupe.
C'est une nouvelle compétition qui démarre.
Faisons une photographie. Moi, je vous fais une liste d'équipes qui sont au moins aussi fortes que l'équipe de France, voire plus fortes, enfin, sur ce qu'elles ont montré. Bon, l'Allemagne.
Les Américaines.
Bon, on sait que c'est un peu les.
Mais la liste est longue quand même.
L'équipe au-dessus, quoi.
Les Américaines, les Allemandes, les Australiennes, les Italiennes, elles ont impressionné.
Ouais, une bonne surprise dans cette compétition.
On les attendait pas aussi bien. Les Brésiliennes, elles sont toujours là.
L'Allemagne.
Les Anglaises. Là, j'ai déjà cité 6 équipes qui sont, franchement.
Et t'as oublié une des meilleures équipes. C'est moi qui en parle.
Vas-y.
Les Pays-Bas.
Lui, il nous ramène toujours ses Pays-Bas, celui-là.
Hey, c'est pareil. D'Europe.
Alors, une fille, c'est pareil.
Championne d'Europe.
Hey, tu confirmes avec... les Pays-Bas?
Hey. Ouais, en tout cas, ils ont des atouts offensifs hyper intéressants, les Pays-Bas.
Je parlais avec. Quelqu'un que Fred, Laure connaît.
Que Kevin est venu dans cette émission, tout tourne autour des Pays-Bas.
Non,
ça marche. Ouais,
c'est pas vrai, Daniel. Je te donne juste l'anecdote. Je parlais avec.
Tu sais que le mec cultive des tulipes, quand même.
Avec quelqu'un que Laure connaît aussi très bien, qui est Fred Gonsalves, qui est un entraîneur confirmé dans le football féminin, voire masculin, qui a entraîné notamment en D1 et en D2 féminine ces dernières saisons, et qui me disait que pour lui, l'équipe de France allait être championne du monde, mais qu'il fallait quand même faire attention aux Pays-Bas qui avaient une très belle équipe. Et je lui ai dit, si je dis ça, Daniel et Gilbert vont me dire que tu reviens toujours avec tes Pays-Bas.
Il est bien confiant, ton pote, parce que moi, franchement, pour l'instant, j'ai loin de les voir championne du monde.
Je suis pas complètement aussi
mais je me dis qu'en fait, tout est possible. C'est pas parce qu'elles ont pas convaincu dans les phases de poule. On sent que j'ai l'impression qu'elles ont un peu la baracale. Alors, la VAR va peut-être pas les sauver à chaque match.
On va en reparler de cette histoire de VAR.
Ah oui, je savais pas qu'il y avait.
Attends, j'ai coupé
VAR
Valentin.
Domicile, ça existe. Avant, il y avait l'arbitrage maison, maintenant il y a la VAR maison.
Valentin, quand on te fait la liste de toutes les autres équipes qui sont bonnes, là, qui sont fortes, là, qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah, je pense que ça va faire une très belle Coupe du Monde, ça va faire une très belle deuxième compétition, hein, pour retomber dans les clichés.
Attention, l'année dernière, après la phase de poule, tu faisais une liste énorme, hein, d'équipes que tu voyais meilleures que les Bleus de Deschamps, et à l'arrivée.
Mais moi,
puisqu'il y a un modèle visiblement.
Mais moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est que j'ai trouvé que la France, elle avait manqué de sérénité. C'est-à-dire que c'était un match où t'étais qualifié, t'aurais pu montrer beaucoup de choses, jouer complètement libéré. Et là, j'ai senti qu'elle jouait un peu avec le frein à main. Alors, je me dis, est-ce qu'elle voulait en garder un peu sur le pied pour le
sous-pied.
C'est
quoi niveau consigne, Coco? C'est très rigide.
Moi, je fais
tous les surmonts. C'est comme ça.
Moi, j'ai senti.
Non, mais c'est parce qu'on a l'impression vraiment les joueuses sont confinées dans des schémas tactiques où faut pas non plus trop déconner quand même. Même si elle en a rigolé cette semaine en conférence de presse.
Non, pour la connaître, c'est qu'elle est très rigoureuse sur les consignes défensives de son équipe. Ça, c'est quelque chose
est-ce que c'est
intransigeant.
C'est pas ça qui fait que Tinet, elle soit un peu bridée aussi.
Peut-être.
Et qu'on la voit pas trop dans la création.
Bah, peut-être, mais en tout cas, ça fait partie des consignes et c'est un point sur lequel elle a appuyé lors du débriefing face à la Norvège où elle a trouvé des joueuses dans la transition à la perte de balles pas assez efficaces. Par contre, sur le plan offensif, c'est quelqu'un qui laisse quand même pas mal de liberté.
Est-ce que je peux penser que les joueuses sont un peu inhibées par le poids que leur met leur entraîneur? Ou leur sélectionneuse. C'est-à-dire que j'avais l'impression que elle a critiqué certaines après le dernier match contre la Norvège, et j'avais l'impression que Henri, que Tinet, elles avaient du mal un peu.
Il y a cette fameuse phrase avant match, je veux une équipe compétitive. Sous-entendu, les remplaçantes.
Oui. Voilà. Et j'avais l'impression que cette équipe, elle était pas libérée, pas forcément la pression du résultat parce qu'elles savaient qu'elles étaient déjà qualifiées, pas forcément la pression du public, mais peut-être la pression du débriefing de demain matin. C'est l'impression que j'en ai eue.
Elle met pas des punitions, elle est pas.
Non.
Ce rigueur,
mais moi,
elle les punit pas quand même.
Non.
Elle en a souri en conférence de presse.
Non, mais ce que je tiens à souligner, c'est que, par contre, je trouve ça plutôt bien, c'est qu'il y a quand même certaines cadres dans cette équipe. C'est que même si c'est une cadre qui a fait un mauvais match, elle est capable d'aller lui dire et de faire son analyse. C'est-à-dire qu'elle se cache pas derrière les cadres en disant je vais plutôt incriminer un tel. Je pense que c'est plutôt dans un souci de faire progresser la joueuse. Maintenant, il faut être capable d'entendre les critiques quand on est sportif de haut niveau. Je pense que c'est plutôt constructif.
Non, mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent vous dire aussi ou de joueuses qui peuvent vous dire ouais, mais moi je comprends pas ce que me demande l'entraîneur. Ou l'entraîneuse, ça existe.
Valentin, un truc à rajouter?
Alors, moi, j'aurais aimé avoir l'éclairage de Laure Lepailleur sur une joueuse, vous en avez parlé. Moi, j'ai un point d'interrogation sur Gaëtan Tinet et comment on l'utilise. Est-ce qu'elle est vraiment utile dans cette configuration? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de tomber sur un 4-3-3 avec un milieu de terrain un peu plus fourni avec Charlotte Bilbao et Amandine Henry?
Elle y est dans le milieu. Elle y est dans ce milieu à 3, sauf que c'est un triangle en fait.
Parce que Gaëtan Tinet, finalement, sur ces trois matchs-là, finalement, c'est celle qui est un petit peu, qui est passée un petit peu inaperçue.
Mais c'est surtout que, en fait, c'est vrai que dans son positionnement en numéro 10, en soutien de l'attaquante, forcément qu'on attend beaucoup plus de sa part sur le plan offensif. Mais j'ai l'impression que, comme dit Daniel, les consignes défensives, c'est vrai qu'elle là-bas, elle fait des kilomètres,
elle court après. Tu regardes son visage, j'ai l'impression qu'elle va exploser dans un cours, elle est en apnée.
Oui, mais c'est pas à bon escient. C'est-à-dire que j'avais bien aimé lors du deuxième match face à la Norvège, où il s'était un petit peu positionné en 4-4-2 à la récupération du ballon, où il s'était partagé la tâche défensive avec Gauvin. Ça avait mieux fonctionné, mais là, j'ai l'impression qu'il y a Gauvin qui court d'un côté, Gaëtan Tinet qui essaye de faire l'essuie-glace derrière, et en fait, elle court dans le vent. C'est-à-dire qu'elle est partout, nulle part à la fois.
En 4-3-3, c'est très difficile pour la joueuse ou le joueur qui joue 9,5, donc celui qui est juste derrière l'attaquant, parce que sans le ballon, il faut défendre sur le 6 adverse, il faut défendre sur les deux centraux, il faut des fois aller presser jusqu'au gardien, il faut compenser au milieu de terrain, et vraiment, comme dit Daniel, physiquement, c'est très compliqué.
Sa générosité nuit à sa performance sur le plan offensif.
Valentin, merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci.
Bonne soirée.
C'est quoi l'idée de d'avoir un péno et que ce soit pas le Sommer qui le tire alors qu'elle l'a tiré au match d'avant, que c'est une attaquante? Pourquoi tu fais monter Wendy Renard pour tirer le péno?
Alors en fait, il faut savoir que Eugénie Le Sommer, du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est pas la joueuse qui tire les pénaltys, c'est Wendy Renard. Est plutôt à l'aise normalement dans cet exercice, donc je pense qu'elle a laissé Wendy Renard tirer ce penalty. C'était différent face à la Norvège parce que face à la Norvège Wendy Renard
avait marqué.
Donc
que c'était pas normal.
C'est parce qu'en fait Wendy Renard elle avait marqué contre son camp. Je pense qu'elle était d'un point de vue mental, psychologique, c'était quand même difficile d'aller tirer ce penalty. Donc Eugénie Le Sommer a pris ses responsabilités pour le faire. Et là, il y a eu apparemment cette petite interrogation.
Donc la tireuse de pénaux pour l'équipe de France, s'il y a d'autres pénaux, là, c'est Wendy Renard.
Ouais, je pense.
On ne sait pas. Comme elle a raté quand même un.
D'ailleurs.
Elle n'a pas raté. Elle a raté parce que la gardienne a fait une faute.
Il y a pas mal de réactions sur le mode. Il y a pas mal de réactions là sur Direct Studio sur le mode. Ah ouais, alors donc on a inventé le VAR à la maison. Voilà. J'ai Didier là qui dit l'arbitre hondurienne a distribué aux Nigériennes les cartons comme des bonbons, que Wendy Renard peut lui dire merci.
Dire que depuis le début de cette Coupe du Monde, on est à se plaindre de l'arbitrage, hein, Laure.
Ouais, c'est clair.
Bon, là, le pénalty, il y est.
Le pénalty, il est indiscutable. Là, elle se fait retirer le pied d'appui.
Elle se prend une balayette, là.
Ouais, le pied d'appui, il est retiré.
Par contre, cette règle-là. Elle est bidon, cette règle du pied sur la ligne, là.
Bah, c'est la nouvelle règle. Maintenant, je trouve que c'est
mais
vraiment.
Nouvelle de quand, là? Parce que celle-là,
depuis
que c'est passé.
Mais ça, après, ça va continuer?
Ça fait partie du groupe de règles où maintenant on peut être.
Pourquoi ils changent?
On peut être dans la surface, on peut être dans la surface aux 6 mètres.
Michel, reviens, Michel!
T'imagines que maintenant on peut être dans la surface pour les 6 mètres? Bon, le gardien peut donner le ballon. Ça, c'est la même chose. Non, mais c'est la même règle. C'est les mêmes.
Tu vas les faire retirer. Si les mecs entrent dans la surface, si le gardien bouge un tout petit peu, mais tu vas pas arrêter.
Ah, autant
quoi.
Faire un péno sans gardien. Alors.
De toute façon, dans le foot, toute application stricte du règlement, moi, à chaque fois, ça me dépasse.
Mais c'est pour ça que.
L'application stricte,
mais c'est pour ça que là,
on les a pas fait, Gilbert, mais j'avais un dépôt.
Vu que je te dise, si on avait appliqué cette règle au match de l'after. Lionel Charbonnier, on lui fait tout retirer. Hein.
Ouais, il était là-dessus, hein. C'est clair.
Ah, aussi, il bougeait vite. Hein.
Bah oui.
Alors que Jean-Louis, notre gardien, a arrêté les pénaux sans même bouger.
C'est l'occasion.
Pour lui tirer dessus, il attire un aimant.
C'est l'occasion quand même de féliciter le coach vainqueur du match after.
C'est vrai.
Tu faisais partie de ton équipe, donc évidemment, tu peux pas t'empêcher.
D'ailleurs, je comprends pas que tu te sois pas élevé contre cet énorme scandale. Je ne sais pas d'ailleurs qui a décidé ça, mais il me semble avoir entendu que l'homme du match. Désigné fut Lionel Charbonnier. Alors, incompréhensible. Depuis quand, nous, l'after, une émission, on aime le foot offensif, on fait pas homme du match, le mec qui met un triplé. Le mec qui a régalé.
Ah, c'est toi?
Le mec qui met un triplé, qui régale, qui.
Non, mais on est humble, ah. Daniel. On laisse.
Non, on n'est pas humble, on a gagné. T'as gagné.
Bah, écoute, Daniel est pas humble.
Je rappelle quand même toutes les consignes, tactiquement, ce match a été.
Ah, tactiquement,
gagné.
Daniel,
on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de gardien ballon d'or, et quand on récompense un gardien, tout de suite, on se fait allumer.
Non, mais il avait été bon quand même, parce que j'en ai mis 3, mais j'aurais pu en mettre 6 s'il n'avait pas fait des parades.
Il a sorti, ok, très bien. Mais c'est l'autre
jour, il en met 6, il te sort ça tranquille.
Non, ça, c'est vrai.
Non, j'ai dit que j'en avais raté.
À un moment, il s'est mis à croquer, ça m'a même un peu énervé.
Moi, je retiens surtout que Laure a fait un bloc sur Christophe Dugarry. Pam!
Ça, Laure, je dois te féliciter pour ça. Bon, pas pour le péno raté, ça, je te félicite pas.
Mais c'est parce que Lionel, il est parti avant aussi.
Voilà, je l'ai vu.
Il est parti, il a anticipé.
Ton jeu défensif, notamment devant Dugarry, je le soupçonne d'être très énervé d'ailleurs de ce qui s'est passé.
Laure, en tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Tu es là, de toute façon, tous les soirs pour la Coupe du Monde féminine et pour le reste.
C'est dimanche là que c'est sérieux là.
C'est vrai, ça devient sérieux. On va quand même regarder les matchs de demain pour voir l'adversaire.
On connaîtra l'adversaire demain exactement. Dans quelques instants, on continue le débat. Si vous souhaitez réagir à la performance de l'équipe de France féminine, et puis on va également parler de l'actu du jour et notamment du PSG parce que ça bouge. Que se passe-t-il vraiment autour de Neymar? Débat à suivre dans l'after. Dans quelques instants, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Il est 23h34, l'after est là jusqu'à minuit. Daniel Ariolo, Kevin Diaz. Je rappelle les résultats. La France bat le Nigeria 1-0. La Norvège gagne face à la Corée du Sud 2-1. La France première de la poule. Haute poule jouée cet après-midi. L'Allemagne, première de sa poule, a battu l'Afrique du Sud 4-0. L'Afrique du Sud est éliminée. Chine, Espagne 0-0. L'Espagne qualifiée. La Chine devra normalement être qualifiée au titre de meilleur troisième. Ça devrait le faire pour les Chinoises qui ont 4 points. Quelques réactions ce soir. Tiens, j'ai Arthur qui dit je suis pas d'accord avec la décision sur le péno, mais l'Italie a bénéficié de la même chose contre la Jamaïque dans un match précédent.
À la limite, dans ce match-là et sur le péno, bon, allez, franchement, la gardienne jamaïcaine, elle part vraiment, mais alors vraiment, c'est exagéré avant. À la limite, elle sort, elle se jette, même si l'Italienne a tiré le péno, mais alors, genre, elle lui a envoyé un message, tiens, bouge pas, je vais te le mettre là-bas, là. C'était flagrant. Bon, là, je veux bien, dans ce cas-là, accepter qu'on retire. Mais là, sur celui de ce soir, non, là, ça me paraît vraiment abusé, quand même.
Seven nous dit, avec cette règle-là en Ligue 1, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, on verra. Hein. Je pense que peut-être que les gardiens vont s'y plier. Et puis, j'ai Nassel qui me dit, donc, lors d'Espagne-Afrique du Sud, les joueurs espagnols rentrent dans la surface, le pénalty n'est pas retiré. Pareil lors de Jamaïque-Italie. Ce soir, Amandinari est clairement dans la surface avant le tir sur le second péno. Mais on utilise la VAR pour voir quoi? La ligne, dit-il.
Donc,
il n'y a pas d'uniformité donc avec la VAR, dit Nassel.
Bah, le problème ce soir, c'est que...
Comme une nacelle.
Oui, comme une nacelle, mais c'est peut-être un pseudo. Hein.
Le problème ce soir, c'est que le football n'est plus jugé comme un jeu, mais comme une technologie, quoi. C'est une technologie. Voilà, on va scruter tous les petits détails.
Le truc, c'est qu'on peut
plus essayer de jouer avec l'anticipation, le feeling. Non, maintenant, ça va être.
C'est terminé.
But en blanc.
C'est du carré, de l'application stricte de règlement. Et moi, c'est
horrible.
Qui m'énerve le plus, c'est quand je dis, ouais, c'est exagéré, machin, on me dit. Non, sur le règlement, application stricte au règlement.
Ouais.
Putain, c'est la ligne jaune à l'aéroport, là. Ah, les kéblos du cerveau, là, comme ça. Là. Non, mais... Bon, c'est application stricte au règlement. Putain, mais.
Et là, gars, on t'a pas sorti. Et la main de Maradona, ça aurait pas existé.
Ah, oh, mais c'est, franchement, c'est les gendarmes, quoi.
On se réconciliera jamais avec.
C'est du
Michel, foot, reviens, Michel.
Un peu de feeling, un peu de sensation.
C'est un jeu pour revenir au jeu. Dans un jeu, il y a des règles, mais dans tous les jeux, on peut contourner les règles.
Bon, on va clôturer là-dessus sur la Coupe du monde féminine.
Parce que la vérité, c'est que, franchement, c'est un tout petit match. Hein.
Oui, oui.
On
en a vu des bien mieux. Je pense que le meilleur match depuis le début, c'était l'Australie-Brésil. C'est terminé à 3-2 pour l'Australie, avec des rebondissements, des gestes techniques et tout, c'était bien. Bon.
Alors, franchement, je suis pressé qu'arrivent les huitièmes, et puis bon, bah, surtout le quart annoncé. Alors, je disais toujours le quart annoncé, mais comme le huitième. Les filles, elles peuvent tomber quand même sur un adversaire.
Ça va être un gros.
Effectivement, assez costaud. Finalement, je vais anticiper mon excitation.
Et puis, dernier résultat, match amical ce soir. La Tunisie qui prépare la CAN, affronter le Burundi qui prépare aussi la CAN. 2-1 pour les Tunisiens. C'est. Attendez, j'ai regardé tout à l'heure qui a marqué le but vainqueur. Je vous redonne ça tout de suite. Non, parce que c'est un joueur qu'on connaît, mais j'ai oublié son nom. Voilà, je m'en excuse. Non, Ali Boumnigel ne joue plus. C'est Naïm Sliti.
Et puis il était gardien quand même.
Naïm Sliti à Boumnigel, légende du Sporting Club de Bastia.
C'est un du Red Star.
Et de Guignon.
C'est vrai.
Alors, attention, Kevin veut parler de Nasser Al-Khelaifi. Est-ce qu'il y a aussi des avis sur autre chose que les Pays-Bas, notre Kevin Diaz?
Bien sûr.
La fausse patte néerlandaise élargit son champ d'action.
Alors, avant que tu donnes ton avis quand même, rappelons les faits. Donc, Nasser Al-Khelaifi s'exprime. On en a parlé brièvement hier soir. Hein, donc, il dit serrage de vis, Lady va s'est terminé, la porte est ouverte pour ceux qui ne sont pas contents. Ciao, dit Nasser Al-Khelaifi. Hein, voilà. Il dit par ailleurs, Léo, c'est mon gars. Expression... avec laquelle j'ai un peu du mal, mais bon, c'est comme ça, il l'a dit. Et puis, il y a l'imbroglio Neymar, mais ça, c'est pas le sujet de ton avis.
C'était une interview qui était traduite. Hein.
Ah, je ne sais pas s'ils l'ont faite en anglais ou en français.
En français, non. Elle n'a pas été faite en français. Donc, les expressions.
L'expression c'est mon gars, pas sûr que. He's my guy.
My man.
He's my man.
Je crois pas, tu vois. Vas-y.
Bon. Bon, peut-être effectivement.
La traduction en anglais, c'est mon gars.
Mais c'est ça, c'est my man.
Et sûr, s'il avait ajouté sûr, c'est mon gars sûr. Ah, ça se dit sûr. Plus en plus, ça. C'est un peu
mal. My man for sure.
Alors, bon, vas-y sur Nasser, on parlera de Neymar ensuite.
Bah, moi, je voulais dire que pour une fois, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a eu tout bon. Il a eu tout bon sur ces derniers jours, sur sa communication. On l'a beaucoup critiqué, mais je trouve vraiment qu'il faut noter que, alors que ce soit bien sûr avec le retour de Leonardo, qui a été quand même bien géré, parce que bon, Antero Henrique, il y avait trop de soucis avec l'entraîneur, avec plusieurs choses, donc il fallait changer. Il a fait revenir l'homme que tout le monde voulait, le Messi. Hein, Leonardo, Léo, il a tout pour lui. C'est quelqu'un qui connaît le club, qui a déjà incarné. Et je pense de bonne manière cette institution. Et en tout cas, je voyais pas vraiment un meilleur homme pour cette situation qui était quand même très compliquée au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'était le premier bon choix. Et son interview qui sort là au goutte à goutte depuis plusieurs jours, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Alors ça peut paraître un peu cliché de le dire, mais il fallait qu'il le fasse. Il faut serrer la vis. Il fallait qu'il remette la main sur ce club parce que lui, il avait très clairement accepter le fait que...
Excuse-moi, mais est-ce que les faits vont... est-ce que ça va être suivi des faits?
On ne sait pas si ça va être suivi des faits, Gilbert, mais en tout cas, il fallait le dire, il fallait le faire, et il l'a fait. Ça n'a pas toujours été le cas. On a souvent réclamé des choses qu'il n'a jamais fait. Là, il prend du recul, il se met un peu en retrait, parce qu'il pense, je pense qu'il voit bien que pour lui... Alors, je ne sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, il a clairement besoin d'une pause. Il met quelqu'un en place que tout le monde réclamait, qui a déjà eu du succès, qui connaît l'institution. Je pense que c'est à noter. Sur ces derniers jours, que ce soit en communication ou dans les faits, il a été bon. Maintenant, il va falloir que ce soit suivi d'actes, semaine après semaine.
Bon, Daniel, je ne sais pas si vous avez lu l'interview. Elle sort demain, dans France Foot.
On avait des larges extraits.
Je l'ai lu, moi, ce soir, en entier. Le mot qu'il utilise le plus dans cette interview, c'est « mentalité ». Il y revient pratiquement, je ne veux pas dire à chacune de ses réponses, mais c'est le mot qu'il utilise le plus. En gros, quand j'ai lu l'interview, j'étais comme toi, j'avais envie de dire bravo. Mais à chaque fois que je me disais bravo, je disais enfin.
Oui.
Pour moi, il est là le problème. C'est un petit peu comme s'il était en train de distribuer des médicaments, mais est-ce qu'il a réellement l'antidote ? Je ne sais pas. Ce qu'il dit dans son interview, franchement, hein, sans fausse modestie, tu enlèves le nom Nasser Al-Khelaifi, tu mets Daniel Riolo parle du PSG, c'est tout ce qu'on dit depuis des années.
Oui.
C'est tout ce qu'on dit ici depuis des années. Donc, Nasser, si t'écoutais l'after depuis longtemps, bah déjà t'aurais gagné du temps, déjà. Parce que tu fais revenir Leonardo, mais t'aurais pas dû le faire partir.
Dans quelle mesure c'est Leonardo qui a pas fait passer les messages à Nasser en disant tiens, ce serait bien que tu fasses passer tel message, tel message, tel message.
Peut-être. Mmh. Et le football, donc que je sois d'accord avec lui, ça me paraît normal.
On peut laisser quand même à Nasser le droit quand même d'avoir une réflexion aussi sur son propre travail.
On peut ne pas s'interdire de penser que.
Non, mais c'est un travail collégial.
Il a été conseillé.
Effectivement, mais à la limite, c'est normal qu'il soit conseillé. Mais bon, Leonardo s'en va dans les circonstances qu'on va pas rappeler, mais en tout cas. Je pense que s'ils avaient vraiment voulu le faire rester, ils pouvaient le faire rester à l'époque, même si lui
était
un peu fâché.
C'était compliqué quand même avec cette histoire d'arbitre.
Ouais, c'était l'époque où Nasser Al-Khelaifi faisait vachement attention à tout ce qui se disait dans les médias, voulait plaire, je vais simplifier, mais c'était ça, voulait plaire à la France du foot, qui taillait le PSG et le fait qu'il y ait des étrangers aux commandes. Donc ça a été... Leonardo, bon allez, t'as déconné, on te retient pas trop, t'es en colère, machin, bref, parce que s'il a mis 3 minutes à le convaincre de revenir, il pouvait en perdre 10 pour le garder à l'époque.
Oui, okay. Mais Daniel, rappelle-toi du contexte. Il y avait eu l'année de suspension, etc.
Mais Daniel, moi je suis d'accord avec toi.
Il y a ça. Donc après, il avait rappelé blanc. Et je reviens sur ce mot de mentalité qui est beaucoup utilisé. Pendant toutes les années où des grandes décisions et où il a donné les interviews, c'est souvent le mot qui revenait. Alors, à un moment, c'est revenu par le biais de Grinta, au moment d'Unai Emery, quand avec Laurent Blanc ça avait foiré à City, on avait jugé le manque d'état d'esprit, tout ça. Ce manque d'état d'esprit contre City qui suivait la défaillance de gestion du Caorier. Donc, en gros, bon. Là, c'est un petit peu comme s'il y avait grosse prise de conscience, 6 ans après, et que maintenant, là, tout ce qu'il dit dans l'interview, c'est super.
Ouais, mais Daniel.
C'est génial, super. Mais en gros, c'est mieux vaut tard que jamais. Bah, très bien, mieux vaut tard que jamais. T'as perdu un temps fou sur des choses qui sont, mais d'une évidence totale. Alors, je le trouve
lucide.
Clair, net, lucide sur le cas Neymar. Je le trouve même dur sur le cas Neymar. Si tu lis l'interview entièrement, clairement, il dit Mbappé à 200% reste. Neymar, la porte est ouverte. Mais s'il y a une offre, Neymar peut partir. Ou alors, c'est discussion. C'est exactement ce que je disais dans l'after, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Je te mets en face de moi, t'as envie de rester ? Dis-moi que tu vas rester avec, en respectant toutes les règles du club. Et je disais, oui, bon. si je vois ton regard qui détourne...
Tu sais, entre le discours et la réalité, il faut quand même qu'il y ait
l'offre. Là, tu dis que c'est
économiquement que ça
déjà,
corresponde.
Déjà, t'as un discours qu'on attendait depuis très très longtemps. Donc, est-ce que ce sera suivi ou est-ce que c'est que de la com? Parce que cette com, on l'a déjà eu plein de fois. Quand je disais, mais parle de temps en temps, Nasser, essaye de sortir, essaye de donner des interviews, donne un petit peu la ligne de conduite du club, fais quelque chose, mets de l'ordre dans le centre de formation, mets de l'ordre dans le staff médical. Eh ben, en fait, on a l'impression que Nasser Al-Khelaifi, c'est j'applique tout ce que vous dites dans l'after depuis des années. Merci, mais fais-le vraiment.
Alors Kevin, tu vas pouvoir répondre.
Ok.
Mais faut qu'on fasse une petite pause.
Okay.
Mais tu vois là, Daniel, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Là, fallait que.
Ouais, bien sûr.
Fallait le laisser un peu délayer. Tu vois. Là, tout à coup, il se sent mieux. 23h44. La réponse de Kevin. Ahmed également veut réagir. Dans quelques instants.
S'il a écouté l'after, il est en train de prendre que les bonnes décisions.
On continue le débat tout de suite.
Et la Jacques aussi écoute l'after.
Tu constates
dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Ahmed dans quelques secondes avec nous pour parler de Neymar. Mais d'abord la réaction de Kevin là, suite au débat Nasser Al-Khelaifi. On t'écoute.
Oui, je disais qu'il avait tout bon donc au début de mon avis tranché. Je suis d'accord avec Daniel dans le sens où il a attendu, mais Daniel a dit une chose, il a dit « vaut mieux tard que jamais ». Pour moi c'était maintenant ou jamais. Parce que là, c'était le dernier virage que le PSG devait absolument pas rater.
Je crois que tu as suggéré un truc que j'ai retenu, qu'il efface de son portable tous les numéros de portable des joueurs.
Voilà, pour moi, il faut qu'il efface de son portable tous les numéros des joueurs.
Alors ça,
faut que les joueurs effacent tous le numéro du président. Faut plus qu'il ait de contact. Si un, moi je l'ai déjà connu ça dans un club. Le président a dit, moi je veux plus de contact avec les joueurs. Si vous avez un problème, vous allez voir le directeur sportif. Et c'est absolument ce qu'il faut qu'il fasse, parce que pour l'instant il est bon, mais son côté affectif avec certains pourrait le ramener et entre guillemets le tirer vers le bas.
Sache que dans l'interview il en parle de ça et il dit que c'est des conneries. Il dit qu'il nie cet aspect chouchoutage des joueurs. Il dit que c'est pas vrai et que là-dessus il y a beaucoup de délire et peu de vérité.
Oui, enfin, on avait des infos quand même comme quoi il allait dîner chez les joueurs.
Mais attends, moi je suis en train de dire qu'il a répondu à ça. C'est parce que ça a été évoqué. Et franchement, l'interview est très bonne. Elle est longue et elle est précise sur plein de points. T'as envie de dire, encore une fois, si enfin, mais moi, ce qui me rend dingue, c'est d'être lucide à ce point si tard. Mais qu'est-ce que t'as foutu avant, quoi?
Ouais, mais bon,
Mais quoi? Qu'est-ce
mais on est obligé d'analyser à l'instant T. Et à l'instant
pourquoi
c'est enfin la bonne décision. C'est trop tard, mais c'est enfin la bonne décision.
J'aimerais qu'Ahmed arrive. Ahmed arrive dans le débat. Salut, Ahmed.
Salut, les gars. Salut.
Toi, tu voulais dire un mot de Neymar. Alors, Neymar, rapidement. Donc, on a bien compris. Nasser Al-Khelaïfi, ouvre un peu la porte, en quelque sorte. Neymar, fait comprendre que lui, il est moyennement content. Il se pose des questions. Il avait déjà fait le coup à Barcelone pour se revaloriser et tout. Est-ce que c'est ça? Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, de Neymar? Et qu'est-ce que t'en fais?
Moi, je le vends. La messe est dite, il a 4 matchs de suspension pour la prochaine Ligue des Champions et on pourrait même pas compter sur lui.
Non, 3, pas 4.
Ouais, bon.
Il y aura un appel, je crois, hein, donc c'est pas définitif, mais bon.
Il est en train de se dévaloriser avec toutes les affaires de vie privée. Il est blessé quasiment tout le temps, 50% de la saison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le PSG doit se dire, on a notre tête de gondole, c'est Mbappé, il faut renforcer l'équipe. Ce gars-là, il est très personnel, il a une vie privée qui est dissolue. C'est problématique aujourd'hui en termes d'image, Neymar. Et je pense qu'ils doivent se dire, le Barça le veut absolument. Nous, je pense qu'on doit se poser la question de Coutinho, peut-être de Griezmann. C'est peut-être l'occasion. Pour moi, c'est l'occasion de le laisser partir. C'est un joueur, pour moi, qui a fait le tour de Paris. Je suis pas sûr qu'il soit intéressé par le projet.
Bah, Ahmed, en fait, tu sais, El Khelaïfi répond dans l'interview. Il dit, soit il est à 2000% avec nous, mais c'est-à-dire plus de comportement de star. Là, il n'y a pas de sous-titres. Est-ce que ça veut dire, tu fais plus ton anniversaire Red Bull, tu fais plus carnaval, tu fais plus machin? Et ça, c'est pas dans le sous-titre de la réponse. Après, à toi d'interpréter ce que ça veut dire, plus de comportement de star, il faut qu'il soit à 200% et l'institution est au-dessus de lui et tout. Ce qui déjà, tu vois, Ahmed, tu seras d'accord, lire ça, c'est quelque chose de positif. Donc, si Neymar n'est pas prêt, et il ajoute, El Khelaïfi, il dit, j'ai parlé à son père. Il dit, j'ai pas parlé aux joueurs, j'ai parlé à son père. Ce qui est déjà important. Si Neymar accepte tout ça, ça vaut certainement le coup de le garder parce que c'est un joueur hors norme. Si en revanche il voit une faille, là je te suis, je suis d'accord, je l'ai déjà dit ici. Avec l'argent que tu récupères, tu peux prendre 2-3 très bons joueurs et il y a pas de problème et il y a pas à pleurer son départ.
Ahmed, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, bon, moi ça fait plusieurs semaines hein, sur RMC, dans l'after ou autre, que je dis que pour moi Neymar devrait partir. Non pas parce que c'est pas un beau joueur, c'est mon joueur préféré à moi. Moi, c'est mon joueur préféré. J'adore Neymar, j'adore le voir en France, j'adore le voir au PSG, mais j'ai l'impression que le couple ne marche pas. Je pense que c'était déjà un couple qui était voué à l'échec parce que Neymar est pas venu pour les bonnes choses et le PSG ne l'a pas pris pour les bonnes choses.
Bah, t'as vu ce qu'il dit, Nasser, de ça. Il dit non, on l'a pas obligé à signer, hein.
Non, mais bien
sûr.
Vient,
il connaît le projet, s'il est pas content, en gros, il rentre.
Non, mais j'ai bien compris. Mais moi, je pense une chose très importante, et là, je vais attendre Nasser et je vais attendre aussi Leonardo là-dessus. Si Neymar reste au PSG, surtout, le club ne doit pas se rabaisser à lui revaloriser son contrat. Il a déjà un contrat exceptionnel.
Ah bah oui.
On doit surtout pas le prolonger ou l'augmenter son salaire.
Mais c'est pas à toi de lui donner des choses.
Si tu restes aux conditions que tu as parce qu'elles sont déjà exceptionnelles, certes, t'es peut-être pour moi le troisième meilleur joueur du monde derrière les deux extraterrestres, mais en tout cas, ton contrat, il est déjà bien, tu t'en contentes, prouve-nous, fais-nous gagner la Ligue des Champions et là, on te prolonge pendant 10 ans.
Moi, je pense que le PSG est un club qui a du mal à gérer une star comme Neymar qui a une dimension internationale et que Leonardo l'a compris et qu'il pense que c'est devenu un problème pour le groupe. que Neymar n'est
en tout
pas...
cas, moi, Ahmed, pour conclure là-dessus, c'est vrai qu'on va dire que les éléments sont en train de se mettre en place de plus en plus entre les déclarations des uns et des autres.
Le départ d'Alves.
Pour, t'ajoutes en plus effectivement Alves qui pourrait s'en aller pour que Neymar parte. Bon, à suivre dans les jours qui viennent, bien sûr. Deux petites infos pour conclure. Vous dire que Jean-Luc Vasseur est le nouvel entraîneur des féminines de Lyon à la place de Pedros. Et vous dire que Maradona est en colère. Copa América, on en a parlé longuement ces derniers jours. Il a donné une interview. Il dit, vous imaginez qu'aujourd'hui, même les Tonga peuvent battre l'Argentine, dit Maradona. Il dit, nous, on a gagné en sachant donner des coups, dit-il. Donc, il dit, en gros, il faut muscler un peu. Et il ajoute, mais que représente ce maillot? Ce maillot doit te faire vibrer, dit Maradona, bah, qui ajoute quelques insultes en passant. Voilà. Et puis, je voulais juste vous signaler un truc marrant. C'est que Dijon a recruté un jeune joueur qui s'appelle Ryan Messi. Voilà. Il est originaire de la région parisienne. Donc,
oui. Ils se sont dit qu'il peut-être le nom suffisait à être bon.
Sachez que le nom de famille Messi est très courant au Cameroun.
Mais non.
Si.
Moi, j'ai un coéquipier qui a appelé son fils Léo Andrés Messi. Trois prénoms.
Ah, carrément.
Ouais. Je citerai pas son nom.
Daniel, ouais. Le mot de la fin pour toi.
Le mot de la fin très rapidement. Content d'être là et surtout merci à la quantité absolument hallucinante de personnes qui m'ont soutenu pendant cette semaine. Ça fait beaucoup de bien. Voilà.
23h55, demain l'after sera là aux alentours de 23h. Demain soir, on a un match des espoirs, le début de l'Euro Espoir pour la France. France-Angleterre, c'est un choc d'entrée là, avec une énorme équipe d'Angleterre que nous a survendu Julien Laurence, une belle équipe de France aussi.
C'est vrai qu'on plaise une super équipe, les Anglais.
Donc ça va être sympa demain soir, ce France-Angleterre espoir. Bonne nuit à tous et à demain dans l'after.
Ciao.
RMC, l'after foot.